Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Calvados Manche pour notre rendez-vous mensuel avec Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux. Monseigneur Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Notre premier sujet, Monseigneur, c'est la rentrée pour des milliers d'élèves dans notre département. Alors que souhaitez-vous leur dire ?
Bien d'abord, bonne rentrée, bien sûr, si je pense aux enseignants, au corps professoral et puis bien sûr aux élèves et aux familles. Mais l'école est un lieu important aujourd'hui. Nous sentons bien que toutes nos institutions sont fragiles. Il n'y a plus la transmission, pas seulement d'un savoir, mais aussi d'une éducation, puisque nous parlons
de l'éducation
nationale. Oui. Hein, voilà. Donc, c'est important que nous puissions prier aussi pour tous ces enseignants. Il faut savoir que de moins en moins de jeunes aujourd'hui, hein, en fac, se dirige vers l'enseignement, parce que c'est sans doute une mission difficile, et on fait reposer sur l'école, le collège ou le lycée, au fond, une éducation qui devrait être d'abord faite au sein de la famille.
Oui,
donc... Comme la famille est en crise, beaucoup de jeunes n'ont aucun repère, et on voudrait que l'école compense le déficit non seulement de la famille, mais aussi de notre société. Donc je tiens à dire toute ma reconnaissance vis-à-vis des enseignants. Leur mission, je dirais, elle les dépasse d'une certaine manière. Il y a une attente trop forte de la part des parents et de la part de la société vis-à-vis des enseignants, en croyant que ce sont eux qui vont combler toutes nos défaillances. Hein, cette rupture de transmission, elle est lourde de conséquences, hein, de l'éducation. On voit bien aujourd'hui le comportement d'un certain nombre de jeunes. Il ne faut pas en vouloir aux jeunes, il faut en vouloir à notre société qui n'a pas su, qui ne sait plus transmettre, ou en tout cas qui ne donne plus de valeur. Hein, on vit plutôt pour les moyens de vivre que des raisons de vivre.
Et pourtant, il y a, je dirais, aussi un certain nombre de parents quand même qui s'engagent aussi aux côtés des enseignants, ne serait-ce que bénévolement, dans de nombreuses associations, dans les écoles, enfin surtout, je dirais peut-être plus au niveau des écoles élémentaires, peut-être plus qu'au collège et au lycée.
C'est vrai, mais vous savez, nous manquons toutes les fédérations de parents, que ce soit dans l'enseignement catholique ou dans l'enseignement public, manquent d'adhérents au niveau des familles, au niveau des parents. Ce sont quelques-uns hein, qui s'investissent. Ce sont ces mêmes parents que nous retrouvons dans des associations, dans beaucoup d'autres lieux. Il faut encourager, mais là aussi, hein, on se libère d'un certain nombre de responsabilités qu'on met sur le dos de l'école ou d'associations. Et là aussi, il faut rappeler que la première éducation, c'est de l'ordre de la responsabilité de la famille, des parents. Et que l'école ne viendra jamais suppléer, quelle qu'elle soit, à ses valeurs familiales. Je crois que le pape le dit souvent, il l'a redit à Dublin, à la rencontre internationale des familles, la famille reste le premier lieu de l'éducation, de la structuration du jeune. Alors, l'école, heureusement, permet aussi à un certain nombre de jeunes de se socialiser, de rencontrer d'autres jeunes, et puis
de se former, d'apprendre un métier
et reconnaître qu'il y a des enseignants qui sont, je dis mon admiration devant ces adultes qui essaient, avec parfois des moyens limités, de permettre à ces jeunes non seulement d'acquérir un savoir, mais peu à peu de devenir des êtres responsables.
Effectivement, en France, quand même, on a la chance d'avoir un système scolaire qui fonctionne bien. C'est aussi la rentrée dans les paroisses pour la catéchèse, des diverses activités. Quel message voulez-vous faire passer aux jeunes et aux adultes qui œuvrent dans les paroisses, du moins pour les adultes et les jeunes qui en bénéficient?
En tant qu'évêque, d'abord dire ma gratitude. Je pense qu'il y a, au sein de ce diocèse, comme dans beaucoup de diocèses en France, beaucoup de personnes qui s'engagent au service de l'Église diocésaine. De même, ce sont aussi souvent ces mêmes personnes qui sont engagés dans des associations.
Oui.
Il faut remercier beaucoup de bénévoles, puisque dans l'Église catholique, c'est essentiellement le bénévolat.
Énormément, majoritairement. Pour la vie de la paroisse, la vie liturgique, la catéchèse des enfants, l'accompagnement des jeunes, les différentes associations, je pense notamment pour le scoutisme ou autre.
Alors, un message peut-être aux jeunes, c'est que nous allons avoir à Rome, on peut dire, ce synode sur les jeunes. À Lourdes, les lycéens, qui étaient plus d'une centaine, ont pu préparer déjà ce synode et envoyer au pape un certain nombre de requêtes. C'était intéressant parce que ça veut dire que l'Église, c'est aussi leur affaire. C'est pas demain ils deviendront chrétiens, ils sont déjà chrétiens aujourd'hui, à leur manière. Ils ont leur place à prendre dans l'Église. C'est intéressant ce qu'ils souhaitent parce que, évidemment, leur cadre de vie, les rencontres qu'ils souhaitent sont pas toujours hebdomadaires, c'est souvent sous forme de temps fort. Ils ont aussi besoin de retrouver d'autres jeunes. Je dirais que nos paroisses sont aussi au service des parents, des familles. Et puis, aujourd'hui, les prêtres dans les paroisses travaillent avec des laïcs. Et je trouve que c'est cette joie que l'on a du sacerdoce baptismal comme du sacerdoce ministériel de collaborer ensemble. Et là aussi, je redis ma joie, ma gratitude à tous ces laïcs qui sont au service de la pastorale, comme on dit, qu'elle soit sacramentelle, qu'elle soit missionnaire, qu'elle soit aussi diaconale, au sens du service, et auprès des plus pauvres. Donc voilà, je tiens à dire un grand merci. Ils sont très nombreux dans notre diocèse. Alors, j'aimerais aussi que de jeunes retraités s'engagent, parce que c'est vrai essentiellement,
c'est pas toujours facile,
dans nos communautés,
pour des jeunes adultes, des parents,
la moyenne d'âge est quand même assez élevée.
Oui.
Ce sont des retraités d'une certaine génération qui se mettent au service de l'Église. Les jeunes retraités ont beaucoup plus de mal. Je sais bien qu'ils sont pris par les petits-enfants, ils veulent profiter un peu de leur retraite, etc. Mais quand on est chrétien, la vie d'une communauté, c'est comme celle d'une famille. Si on ne s'y investit pas, je crois qu'il y a une dimension un petit peu bancale. On fait partie d'une communauté, mais on est des assistés. Alors que, Jésus nous y invite à prendre notre place, et le pape aussi nous le rappelle sans cesse, que les laïcs, les baptisés, ont à prendre leur place selon leur charisme dans la communauté
donc,
chrétienne.
Donc, message bien entendu, c'est la rentrée, appel aux bonnes volontés pour
venir
aider dans les paroisses. Un rendez-vous important à ne pas manquer et à souligner, Monseigneur, c'est la rentrée diocésaine de samedi.
Voilà,
15 septembre.
Samedi 15 septembre au matin, j'invite tous ceux qui sont en responsabilité pastorale à se retrouver à la maison diocésaine, où nous allons redonner les grandes orientations pour cette année 2018-2019, en particulier autour de ces petites fraternités locales, missionnaires, et proposer un certain nombre de choses assez concrètes. Donc j'invite tous les auditeurs à venir ce samedi 15 septembre à la maison diocésaine durant la matinée.
Oui, parce que je crois savoir que en plus il y aura des ateliers et des témoignages pour savoir ce qui existe sous les différentes formes de fraternité et comment en constituer dans les paroisses, enfin ce qui rejoint votre projet pastoral pour le diocèse.
Ça montre qu'il y a du dynamisme et qu'on a besoin de partager aussi sur tout ce qui est créativité actuellement dans notre diocèse.
Vous avez prêché des retraites et participé à divers événements, et je voudrais revenir avec vous sur deux d'entre eux. Alors le premier, c'était la bénédiction de la mer et des marins, les 11 et 12 août dernier à Port-en-Bessin, avec des milliers de personnes, et c'était un moment inoubliable, j'imagine.
Ah oui, donc là, cet événement a lieu tous les 5 ans,
oui,
et c'est très important que l'évêque y soit. Toutes ces fêtes ont commencé avec Monseigneur Lemonnier. Donc, vous voyez, l'initiative est venue de l'évêque de l'époque, après 1905. Donc là aussi, les portés, puisqu'on appelle les gens de Port-en-Bessin les portés, ils attendent la présence de l'évêque. Donc il ne faut pas que l'évêque ce jour-là soit défaillant, hein, ou prenne une excuse pour ne pas venir parce que c'est préparé.
Ou qu'il ait le mal de mer.
Oui, on a toujours un peu le mal de mer, mais l'essentiel c'est d'être là. Hein. Oui. Donc ça a été prévu il y a déjà 3 ans, et la date, etc. Oui. Bon, ensuite, moi ce que j'admire, c'est la mobilisation des habitants.
Oui, pour c'est décorer les bateaux, décorer les rues.
Ce travail qui est fait, les roses en papier, etc., les décorations, en sachant qu'il y a des personnes qui vont commencer pour les 5 années qui viennent. Les personnes en maison de retraite se trouvent utiles parce qu'elles vont commencer à fabriquer des roses en papier pour les 5 ans à venir, pour le prochain événement. Hein, qui aura lieu en 2023, donc c'est extraordinaire. Et puis ensuite, c'est cet élan de solidarité entre tous les habitants.
Oui.
Et puis aussi les pêcheurs. Hein, pêcheurs. On sait que leurs conditions de vie sont difficiles.
Oui.
Et il y avait beaucoup de bateaux, 37 bateaux cette année. Alors c'est pas uniquement la bénédiction de ces bateaux. Hein.
Non, bien sûr.
C'est l'équipage qu'on bénit. Ce sont les familles aussi des marins. Elles étaient pour la plupart invitées sur les bateaux. Pour eux, pour elles, c'est un honneur, c'est extraordinaire. Oui. Puis en même temps, il y a une dimension religieuse. Il y a la procession à la Vierge au feu. Hein, et puis, il y a aussi cette messe, ce temps de prière, ces gerbes déposées aux différents monuments aux marins décédés en mer, etc. C'est très beau, je veux dire. Hein, c'est, quand on voit la foule, il y avait des milliers de personnes, hein, oui, donc c'est extraordinaire. Hein, ça. Et puis à la messe ou autre, ça a été un moment très fort dont les chrétiens ont besoin.
Oui.
Et je crois qu'ils ont eu raison de garder une telle fête. C'est unique en France.
C'est unique en France.
Au niveau
les
de la décoration,
sont faits,
on ne trouve ça nulle part. Hein, j'ai bien connu Boulogne-sur-Mer, je peux vous dire, ça n'a rien à voir. Nous sommes bien plus pauvres, bien plus démunis. Et ils ont raison de garder tous les 5 ans parce que c'est un tel investissement humain que c'est pas possible de réaliser ça chaque année.
Non. Le deuxième événement, ce sont les fêtes du couronnement de la Vierge à Douvres, la Délivrande, les 17 et 18 août, avec là encore un public nombreux mais différent.
Oui, si vous voulez, c'est le plus ancien lieu marial de toute la Normandie.
Oui.
Donc. Ce qui est étonnant, c'est que les Normands, bien avant 1854, priaient la Vierge Marie sous le titre de l'Immaculée Conception. Et Notre-Dame de la Délivrande, enfin cette Vierge noire, enfin on peut dire elle est bronzée, est-ce qu'elle est vraiment noire? Bon, elle ressemble plus à presque une déesse égyptienne à la limite, vous voyez. Bon, mais peu importe, hein, la Vierge elle est de toutes les couleurs, elle n'est pas forcément européenne, peu importe. Mais en même temps, c'est la délivrance. On peut être accro à l'alcool, à beaucoup de choses, délivré des forces du mal, délivré du malheur. Les gens ont besoin de se tourner vers Marie, hein, de l'invoquer pour retrouver une véritable liberté. On dit que le diable n'a que des esclaves, que Jésus n'a que des amis. Et la Vierge est celle qui nous libère. Voyez. Je pense que libéré de la dépression, libéré de l'addiction, mais aussi libéré des doutes, enfin de l'angoisse. Donc voilà, et cette piété populaire, elle se vit à travers un pèlerinage, la messe le matin, et dans les rues de Douvres.
Thank you. L'actu du diocèse sur RCF avec Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bailleul-Lisieux, au micro d'Alexandre Barbet.
Nous allons évoquer le pèlerinage diocésain à Lourdes que vous avez conduit du 22 au 28 août, donc c'est très récent. Qu'en retenez-vous ?
Bon, d'abord une joie profonde. Enfin, tous les ans, depuis 40 ans presque, hein, je vais à Lourdes, j'y vais parfois plusieurs fois dans l'année. Pour moi, vivre un pèlerinage avec les personnes du diocèse, c'est un événement extraordinaire. Hein. Je l'ai vécu dans mon diocèse d'origine, en particulier en accompagnant les jeunes pendant tant d'années. Mais ici, c'est ma joie profonde. Et je dirais, quand j'arrêterai, c'est sans doute ce qui me pèsera le plus, ce qui sera le plus difficile, c'est de plus avoir ce pèlerinage à Lourdes.
Et cette proximité.
Et cette proximité, je veux dire, à la fois avec les jeunes qui étaient quand même très nombreux, hein, avec les adultes qui l'accompagnent, les animateurs, ils étaient proches de 400, les malades, bien sûr, l'hospitalité, et les pèlerins valides, même si cette année ils étaient un peu moins nombreux. Bon, pour moi, c'est un événement exceptionnel. J'encourage mes frères prêtres. Je sais bien que c'est difficile de quitter la paroisse un dimanche ou autre, encore que l'année prochaine, il n'y aura pas de dimanche inclus. Mais j'encourage vraiment mes frères prêtres, s'ils n'ont jamais fait, à venir en pèlerinage avec les gens de leur paroisse. Les gens disent des choses qu'ils ne disent pas habituellement. Lourdes, c'est un lieu de confidence, c'est un lieu, là aussi, de vie fraternelle. Vous voyez, tous les gens le disent, on peut être soi-même à Lourdes. On est là avec ses faiblesses, avec ses échecs, avec ses joies. Il y a cette joie profonde, hein. C'est Marie qui nous rassemble, puis il y a la petite Bernadette, enfin, hein. On est là avec elle, et puis venant du monde entier, on se sent pas seul. Enfin, Lourdes, je dirais, pour moi, il est exceptionnel. J'aimerais tellement que les gens ne restent pas une image un peu, vous savez, ils voient les magasins, les bondieuseries, c'est pas ça du tout, un pèlerinage. Il y a rien de bondieuserie, hein, il y a la vie, quand vous voyez les gens qui vont aux piscines, c'est énorme ce qu'ils portent avec eux, ce qu'ils demandent à la Vierge ou au Seigneur. Ce sont des vies d'hommes et de femmes, des pauvres souvent, des blessés de la vie qui s'expriment. Hein, à Lourdes, on n'est pas déjà dans le ciel, hein, on est sur la terre, mais on se tourne vers le ciel.
On se tourne vers le ciel.
Et Marie est là, comme celle qui intercède pour nous, et c'est extraordinaire. Enfin, pour moi, cette foi populaire, je souhaite que vos auditeurs aillent à Lourdes en pèlerinage, qu'ils passent pas en touriste, ils seront déçus s'ils vont uniquement pour chercher de l'eau et passer une dizaine de chapelets à la grotte. Ben non, ils vont en revenir comme ils étaient partis, hein. Mais j'encourage les personnes à envoyer les jeunes d'abord, hein. Je pense c'est beau, nous sommes l'un des diocèses
qui a le plus de
jeunes à Lourdes, hein, avec tous ses accompagnateurs, et parmi les jeunes, majoritairement, ce sont les lycéens. Donc ça veut dire qu'ils reviennent. Il y a des jeunes qui en sont à la quatrième ou cinquième pèlerinage. Et d'autres qui sont animateurs, qui passent leur BAFA, etc. Ouais. Moi, je trouve là qu'on a une expérience privilégiée dans notre diocèse, et j'encourage nos auditeurs à y participer. Et quand on revient de Lourdes, je peux vous dire que il y a une conversion. Le plus grand des miracles, dit Bernadette, ce n'est pas qu'un boiteux se mette à marcher. Ça intéresse les médias. C'est un cœur qui se transforme. Combien de personnes, en vivant ce pèlerinage à Lourdes, reviennent plein de confiance, enfin. Et attendent, les malades, ils repartent avec des photos, etc. Et ils n'attendent qu'une chose, l'année prochaine.
Oui. Alors, le pèlerinage à Lourdes, c'est vraiment l'événement qui marque la vie du diocèse. Pourtant, il y a d'autres pèlerinages. Pourquoi est-ce important de partir en pèlerinage?
Je dirais d'abord les lieux, aller en Terre Sainte, c'est là où Jésus a vécu. On s'imprègne de l'Évangile. Après, il y a des pèlerinages mariaux, locaux. Et là aussi, c'est très important parce qu'on permet à des gens qui ne peuvent pas faire peut-être 1000 kilomètres, hein, ou plusieurs milliers de kilomètres en avion, mais d'aller à Pontmain ou dans d'autres lieux. Puis en même temps, j'encourage aussi les paroisses, quitte à ce que ce soit sur un pôle, le pôle missionnaire, à organiser un pèlerinage. Nous irons avec les prêtres sur les pas du Père Jacques Hamel, à Rouen, et là aussi au mois d'octobre, c'est un événement important pour les prêtres de notre diocèse d'aller vénérer Jacques Hamel, le père Jacques Hamel, et de le prier et de confier aussi le ministère de nos prêtres à ce saint prêtre.
Notre dernier sujet, Monseigneur, c'est cette lettre au peuple de Dieu publiée par le pape François le 20 août dernier à propos des abus sexuels commis par des prêtres sur des mineurs. Vous étiez donc en plein pèlerinage à Lourdes lorsque ce texte est paru. Comment avez-vous reçu ce document ?
Comme une interpellation, je veux dire, nous sommes toujours interpellés là depuis quelques années, et particulièrement dans notre diocèse, sur cette question de ces prédateurs. Comment un prêtre peut être un tel prédateur? Il n'a plus sa place de prêtre. Enfin, pour moi, c'est tellement fort. Enfin, quand on voit là, moi qui ai toujours, ça fait presque 50 ans que j'ai vécu avec des jeunes, mais pour moi, quand on voit leur confiance, mais comment on peut en arriver là? On détruit une vie, Et je comprends que, aujourd'hui, enfin, on écoute les victimes. Le pape a enfin écouté les victimes, et du coup il a changé. On peut reprocher à ses prédécesseurs de ne pas avoir écouté les victimes. C'est pas d'abord de juger les prêtres, il y aura un jugement, mais c'est l'Église n'a pas écouté les victimes. Mmh. Et ça, je dirais, le peuple de Dieu en est responsable. Aujourd'hui, quand je dis telle ou telle chose là-dessus, il y a encore des gens qui me disent « non, enfin vous exagérez ». Vous voyez, c'est faux. Tant qu'on n'a pas écouté ces victimes, je crois qu'on n'est pas touché. Oui. Ça reste intellectuel. Or, il y a des vies qui sont détruites. Il y a combien de suicides qui viennent de viols? C'est pas forcément dans l'Église, heureusement, mais ça vient dans les familles. Combien de situations dans les familles? Parce que majoritairement, malheureusement, le viol de l'enfance ou de l'adolescence
se produit dans les familles.
Se passe à 95% dans des familles ou dans des clubs de sport. Mais l'enfant n'ose rien dire. Oui. Et combien d'enfants ont osé le dire? Ils ont pris une paire de claques de la part de la maman. Et là aussi, combien de paroissiens savaient dans les paroisses ce qui se passait? Ils n'ont rien dit. Alors, faut arrêter d'accuser le Vatican. Je crois que c'est l'Église entière. Le peuple de Dieu, et ça c'est cette lettre du pape François, et aujourd'hui les laïcs qui sont en responsabilité ont ce devoir de dire à tel prêtre qui est toujours seul avec des jeunes, mon père, vous n'avez pas le droit d'être tout seul avec des jeunes. Vous devez travailler avec des laïcs, hommes, femmes. Et ça, c'est vital et c'est essentiel pour l'Église d'aujourd'hui.
Et c'est bien ce que dit le pape François dans sa lettre, c'est que c'est tous ensemble. Nous arriverons à vaincre ce fléau.
C'est l'Église tout entière qui est coupable, d'une certaine manière, de ne pas avoir osé voir, parce que beaucoup de gens ont vu et n'ont rien dit, ils se sont tus. Voyez. Et quand on va dans une paroisse qui a eu ce problème-là, tout de suite, ça se divise en clans. Il y en a qui disent « c'est pas vrai » et d'autres qui disent « mais il y a longtemps qu'on le disait ». Donc, il faut ouvrir les yeux et je dirais, avertir, protéger et puis oser en parler. Parce que ce problème-là, il se passe aussi dans les familles, malheureusement. Voilà un peu ce que le pape aussi nous interpelle. Il vit son chemin de croix, notre Saint-Père. C'est sûr que les médias ne le loupent pas. Mais il faudrait que l'éducation nationale, que toutes les institutions soient aussi capables de faire de laver devant leur porte, de balayer devant leur porte, parce que c'est trop... Et les médias en premier. Donc, c'est trop facile d'accuser l'Église. Elle balaye devant sa porte, et bien que les autres institutions en fassent autant. C'est ce que je souhaite.
Voilà. On peut rapidement rappeler aussi qu'il existe une cellule d'écoute sur le diocèse pour les victimes d'actes pédophiles. On peut trouver les références sur le site internet du diocèse www.bayeux-lisieux.catholique.fr. Voilà. Merci Monseigneur d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien avec Monseigneur Boulanger. Au revoir.